Galates chapitre 2, et on va lire en entier. Voilà, tout le monde a trouvé. 14 ans après, je montais de nouveau à Jérusalem avec Barnabas, et aussi pris Tite avec moi. Et ce fut d'après une révélation que j'y montais. Je leur exposais l'évangile que je prêche parmi les païens. Je l'exposais en particulier à ceux qui sont les plus considérés, afin de ne pas courir ou avoir couru en vain. Mais Tite, qui était avec moi et qui était grec, ne fut même pas contraint de se faire circoncire. Et cela à cause des faux frères qui s'étaient secrètement introduits et glissés parmi nous pour épier la liberté que nous avons en Jésus-Christ, avec l'intention de nous asservir. Nous ne leur cédâmes pas un instant et nous résistâmes à leurs exigences, afin que la vérité de l'Évangile soit maintenue parmi vous. Ceux qui sont les plus considérés, quels qu'ils aient été jadis, cela ne m'importe pas. Dieu ne fait point de favoritisme, ceux qui sont les plus considérés ne m'imposèrent rien. Au contraire, voyant que l'Évangile m'avait été confié pour les incirconcis, comme à Pierre pour les circoncis, car celui qui a fait de Pierre l'apôtre des circoncis a aussi fait de moi l'apôtre des païens, ayant reconnu la grâce qui m'avait été accordée, Jacques, Céphas et Jean, qui sont regardés comme des colonnes, me donnèrent à moi et à Barnabas la main d'association afin que nous allions, nous, vers les païens et eux, vers les circoncis. Ils nous recommandèrent seulement de nous souvenir des pauvres, ce que j'ai eu bien soin de faire. Mais lorsque Céphas vint à Antioche, je lui résistai en face parce qu'il était répréhensible. En effet, avant l'arrivée de quelques personnes de l'entourage de Jacques, il mangeait avec les païens et quand ils furent venus, il s'esquiva et se tint à l'écart par crainte des circoncis. Avec lui, les autres juifs usèrent aussi de dissimulation en sorte que Barnabas même fut entraîné dans leur hypocrisie. Voyant qu'il ne marchait pas droit selon la vérité de l'Évangile, je dis à Céphas en présence de tous, « Si toi qui es juif, tu vis à la manière des païens et non à la manière des juifs, pourquoi forces-tu les païens à judaïser ?» Nous, nous sommes juifs de naissance et non pécheurs d'entre les païens. Néanmoins, sachant que ce n'est pas par les œuvres de la loi que l'homme est justifié, mais par la foi en Jésus-Christ, nous aussi nous avons cru en Jésus-Christ afin d'être justifiés par la foi en Christ et non par les œuvres de la loi, parce que personne ne sera justifié par les œuvres de la loi. Mais tandis que nous cherchons à être justifiés par Christ, si nous étions aussi nous-mêmes trouvés pécheurs, Christ serait-il un ministre du péché ? Loin de là. Car si je rebâtis les choses que j'ai détruites, je me constitue moi-même un transgresseur, car c'est par la loi que je suis mort à la loi, afin de vivre pour Dieu. J'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Je ne rejette pas la grâce de Dieu, car si la justice s'obtient par la loi, Christ est donc mort en vain. » Un beau chapitre. Certainement, vous avez déjà lu Galates en vous posant plein de questions et vous n'avez peut-être pas tout compris, hein, mais on va essayer d'expliquer tout cela ce matin. On avait vu la semaine dernière au premier chapitre que Paul défendait le véritable évangile. Évangile qu'il n'avait pas reçu comme les disciples à l'époque de la part de Jésus directement, mais par révélation pendant ses voyages. Le Seigneur lui avait apporté l'évangile d'une autre manière. Mais les deux coïncidaient évidemment. Puis Paul va monter à Jérusalem sur révélation, comme il le dit, mais il n'a pas été invité par les disciples, les apôtres. C'est lui et Dieu qui l'envoie là-bas pour aller les rencontrer. Alors, on ne sait pas exactement à quel moment dans les voyages de Paul, on peut discuter des heures, je pense moi personnellement que c'était un moment de grande famine. Vous vous souvenez, il y a un prophète qui s'appelle Agabus qui avait prophétisé une famine, et certainement c'est à ce moment-là. Bon, il y en a d'autres qui pensent que c'était pendant le concile de Jérusalem, je suis sûr que ça vous parle tous, forcément, qui est dans Acte 15. Bon, ce n'est pas le plus important, mais il aura lieu, je pense, beaucoup plus tard. Mais Paul va là pointer trois choses, trois formes, en fait, d'influence par rapport à l'Évangile, ou que nous-mêmes, en tant que chrétiens encore aujourd'hui, on peut avoir ou se laisser influencer. Et on va les voir, ces trois points. L'idée, c'est de défendre l'Évangile. Bon, on croit dans la Bible, puis bon, tant que le pasteur est là, ça va. Il se débrouille, hein. Mais normalement, on est tous appelés à défendre l'Évangile. Et là, il va nous donner un petit peu des conseils pratiques, on pourrait dire. Le premier refus qu'il fait en allant là-bas, c'est de refuser l'influence des grands. Vous savez, des fois, quand un grand évangélique ou une grande tête connue peut-être de théologie arrive, alors là, on est presque en train de l'adorer, hein. Et ça arrive souvent. Mais lui, Paul, qui allait rencontrer justement les apôtres, il ne va pas agir de cette manière-là, au contraire. Il va aller rencontrer ses apôtres. Il n'est pas convoqué par les apôtres. C'est Dieu qui lui demande d'aller là-bas. Et c'était l'occasion de se rencontrer, justement, de partager cet évangile. Ça se fera certainement 17 ans après sa conversion. Il y a eu un sacré bout de chemin qui a été fait par Paul. Et il va aller là-bas exposer l'évangile que le Seigneur lui avait apporté par révélation. Comme il dit, il l'apporte à ceux qui sont considérés. Alors, il y avait Céphas, qui est Pierre, hein, c'est un autre nom. Il y avait Jacques et Jean, qui étaient les colonnes à Jérusalem à ce moment-là. C'est vraiment les responsables, c'est ceux sur lesquels on comptait à Jérusalem. Il dit quels qu'ils fussent autrefois ou jadis, hein, les apôtres. Lui, ce n'est pas comment dire, la grandeur de l'homme ou ce qu'ils aient fait, etc., qui lui importe, hein, même s'il les respecte, évidemment. Et puis, il faut se souvenir que si les apôtres là, étaient reconnus, Paul, lui, était connu comme un meurtrier, hein, puisqu'il faisait peur à beaucoup de gens. Au fur et à mesure, on a appris à le connaître, mais voilà le contraste entre les grands et le petit, on pourrait dire. Pourtant, Paul n'est pas n'importe qui. Mais peu importe la réputation des apôtres, il allait les rejoindre et ne les a pas regardés comme des dieux, entre guillemets, hein, parce qu'il dit « Dieu ne juge pas sur les apparences ». Vous pouvez paraître grand, vous pouvez paraître tout ce que vous voulez, Dieu voit le cœur. C'est ça, le grand problème peut-être. Ou en fait, la bénédiction aussi. Mais Dieu ne juge pas sur les apparences. Et Paul ne va pas être influencé justement par les hommes et leur statut. C'est peut-être valable aussi dans notre profession, ça peut être valable dans beaucoup de domaines, hein, où des fois on se laisse un petit peu influencer par la stature ou le statut d'une personne, et ses limites, on baisse le dos. Lui, ça, il ne regarde pas. Il fait comme a agi Jésus. Jésus n'a jamais fléchi le genou devant les gens. Il a accueilli tout le monde comme ils étaient, avec leur cœur surtout. Hein. Il reprendra les pharisiens parce qu'il savait que ce qu'il y avait dans le cœur. Puis il laissera les pécheurs l'approcher parce qu'il y en a qui voulaient tout simplement se convertir. Mais Paul n'est pas influencé. Et là, il va recevoir la main d'association, très important cette image quelque part, et il va expliquer à ses apôtres que l'évangile lui est venu du Christ par révélation. Et c'est intéressant parce que les apôtres à Jérusalem ne vont pas lui dire « Ah non, c'est faux, on ne croit pas, etc. » Il ne lui impose rien, il ne corrige rien de ce qu'il partage avec eux, parce que certainement tout cela venait de Dieu. Donc voilà encore, comme j'avais dit la semaine dernière, comment Dieu a pu apporter l'évangile oralement par Jésus à ses disciples, et comment il est capable aussi, par pure révélation, par son Saint-Esprit, d'apporter cet évangile. Alors ça, c'était à l'époque. Hein. Si un jour, comme on avait vu dans Galates, vous recevez un évangile autre que celui qui est dans la Bible, posez-vous des questions. Hein. Si vous recevez un SMS ou dans votre boîte mail, Dieu vous parlerait pour ajouter quelque chose à la Bible, venez me voir tout de suite, on en parle. Hein. Mais ils ne le corrigent pas, ils reconnaissent son évangile, c'est bien Jésus qui a révélé cet évangile à Paul. Et là, on voit que chacun a sa mission, hein, et puis il va le dire, Paul, chacun a sa mission maintenant. Lui, il va s'attaquer aux incirconcis, c'est-à-dire les païens, nous, d'une certaine manière à l'époque, parce que c'est Dieu qui lui confie cette mission. Et puis Pierre, par exemple, va s'occuper des juifs, les circoncis, comme on les appelle. Chacun a reçu sa mission. Tout à l'heure, notre frère nous l'a bien dit, chacun a un don, chacun a une mission, et ce n'est pas la peine d'aller chercher la mission de l'autre. Bien souvent, ce n'est pas comme ça que ça se passe, mais il y en a qui jalousent des fois la mission des autres, il y en a qui ne cherchent pas du tout. Comme ça, ils disent « je ne jalouse pas, mais ils ne font rien, ce n'est pas mieux, quelque part ». Mais chacun a une mission de la part du Seigneur, à nous, tout simplement, de lui demander et d'agir, n'est-ce pas ? Elle est d'accord. Désormais, il reçoit la main d'association, comme il est dit. Le mot en grec, c'est koinonia. Et koinonia, en grec, ça parle de communion fraternelle. Il reçoit cette association avec les apôtres, ce partage maintenant qu'il peut avoir avec eux, cette communion fraternelle qu'il va avoir avec eux. Et il va le faire avec ses colonnes, hein, parce que c'est pas n'importe qui. C'est chouette, quelque part. C'est important, cette communion fraternelle. Déjà à l'époque, s'il la recevait, c'est que c'était quelque chose d'important dans l'Église, mais c'est toujours important pour nous aujourd'hui dans notre Église. Et il lui recommande à l'apôtre Paul, hein, de se souvenir tout simplement des pauvres, c'est ce qu'il va faire. À nous aussi, des fois, de penser peut-être, si quelqu'un dans l'Église est dans la difficulté, de nous en souvenir, ou d'en parler, si on ne peut pas l'aider nous-mêmes, mais pas simplement de prier, hein, parce que c'est bien de dire « je suis pauvre, ah oui, mais je vais prier pour toi ». Un autre passage, je crois que c'est dans Jacques, si je me souviens bien, il faut agir aussi. Si on a une situation difficile, il faut agir. Qu'est-ce qu'on peut apprendre pour nous par rapport à cette influence ? ne nous laissons pas influencer par les grands noms. Je me souviens, une fois, on m'avait repris parce que je n'étais pas d'accord avec un grand auteur évangélique. Ah ouais, je ne suis pas toujours d'accord. Mais c'est, alors, oui, mais ce monsieur, il est grand, il est renommé dans tout le monde, je ne dirais pas qui c'est. Et alors ? Et alors ? Pourquoi ? Parce qu'il a un grand nom, forcément, il a raison, c'est ça ? Parce que des grands noms, il y en a beaucoup aujourd'hui dans le milieu évangélique, et il n'y a pas beaucoup avec lesquels je suis forcément d'accord. Chacun son point de vue, hein. Mais ce n'est pas parce que c'est un grand nom que tout de suite on doit courber les fils devant cette personne. À nous de raisonner. Paul a comparé son évangile avec ceux qui avaient un grand nom. Ils étaient d'accord, et puis ils étaient sur le même niveau, tout simplement. Vous savez, en tant que chrétien, on est tous au même niveau. On est tous graciés à la croix, à cause de nos péchés. Et il n'y a pas plus grand ou plus petit chrétien. Hein. On a peut-être des responsabilités différentes, mais devant Christ, on est tous pareils. C'est chouette, ça. Il n'y a pas d'orgueil à avoir, en fait, dans l'Église. Même s'il y en a des fois, hélas. Et surtout, peut-être parce que les grands noms, souvent, s'écartent, des fois, de la bonne nouvelle. Hein. Il n'y en a pas beaucoup qui, avec un grand nom, restent franchement fidèles à l'Évangile, parce que, après, il y a des tensions, il y a des influences, il y a le monde qui est là aussi, et forcément, ce n'est pas évident d'aller plus loin. À nous de rester fidèles à l'Évangile, à nous de ne pas nous laisser influencer peut-être par les grands ou les petits, hein, parce qu'il y en a aussi qui font des bêtises, mais à nous de faire attention à conserver cet Évangile comme le Seigneur l'a transmise aux apôtres et à Paul. Paul, lui, ne se laissera pas influencer par ces grands de l'Église et il va simplement annoncer l'Évangile. Mais ce n'est pas la stature des gens qui doivent nous empêcher d'annoncer tout simplement l'Évangile. Deuxième influence que va connaître Paul, c'est la loi, qui est toujours là, un petit peu omniprésente. Hein. Avant, ils étaient sous la loi, obéissaient à la loi, c'est Dieu qui leur avait demandé, mais maintenant, on passe à la grâce. Et forcément, il y a un effet de transition, il y a beaucoup de questions qui devaient se poser à ce moment-là. Hein. Imaginez qu'on vous demande de devenir musulman demain, ça fait du changement dans la tête. Hein. Forcément, il y a des questions, il y a des combats, etc. Et Paul va amener avec lui Tite, hein, qui était un croyant, qui avait un arrière-plan païen, donc il était grec certainement, et il va l'amener un peu comme un test à Jérusalem pour voir comment les apôtres eux-mêmes vont réagir. Hein, parce qu'on connaît peut-être l'histoire de Timothée, qui lui avait une mère juive et un père grec, et donc par politesse, Paul va accepter qu'il se fasse circoncire par politesse vis-à-vis des juifs. Mais cette fois, il ne va pas l'accepter par rapport aux judaïsants. Et il y avait un danger qui guettait l'Église, il le dit lui-même, hein. Il y a des faux frères qui s'étaient introduits furtivement pour épier la liberté des chrétiens en Christ. Eux étaient sous la loi, alors ils s'infligeaient beaucoup de choses que Dieu lui-même ne demandait pas. Mais alors, ces chrétiens-là, ils ont l'air d'être libres, ils sont tranquilles, ils font plus que nous on faisait autrefois, c'est pas normal quelque part, il faut leur imposer ça tout simplement. Leur désir, c'était tout simplement de discréditer la bonne nouvelle de Paul, de les asservir de nouveau à la loi, revenir en arrière. Hein. Et quelque part, ils sont légalistes. Il y a beaucoup de chrétiens qui s'infligent des choses que la Bible n'a jamais dites. Moi, si vous me demandez quelque chose, je vous demande simplement un verset. Dites-moi où c'est écrit dans la Bible que je dois faire ça ou pas. Des fois, on veut avoir une vie tellement pure, hein, tellement pure, tellement, oh là là, tellement chrétienne, qu'on va tellement s'imposer de choses, alors que Dieu n'a jamais demandé ces choses-là. Des fois, on exagère. Alors, on accuse peut-être ces judaïsants, mais peut-être nous-mêmes, des fois, on se crée des lois, des choses que le Seigneur ne nous a jamais demandées. Vous savez, vivre l'Évangile, c'est la liberté. On est libre. Hein. Et les chrétiens, des fois, je les vois, ils sont comme ça. On dirait qu'ils portent des fardeaux tellement lourds d'être chrétiens, alors que normalement, c'est la liberté. Alors, pas de faire n'importe quoi, d'obéir à Christ. Mais quand on obéit à Christ, on ne pêche plus. Et forcément, on va bien. On est heureux qu'on ne pêche pas, non ? Non ? Il n'y a que moi, alors. Bon. Donc, ils étaient là pour un peu surveiller et menacer. Ils étaient menaçants, quelque part. Et ces judaïsants qui vont de plus en plus embêter les chrétiens vont justement créer ce concile de Jérusalem. On va réunir les chrétiens, les responsables, et vont discuter par rapport à la loi, qu'est-ce qu'on doit faire ou pas. Et ces judaïsants obligeaient les chrétiens à se faire circoncire. Ça, c'était le rite judaïque autrefois, mais le chrétien n'a pas à faire ça. Et on voit bien qu'en demandant aux chrétiens de se faire circoncire, il demandait aux chrétiens de repasser sous la loi, ou du moins de mélanger les deux. Hein. Et ils accusaient d'une certaine manière les chrétiens d'antinomisme. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu ce mot, antinomique, non ? L'antinomisme, ça vient du grec anti et ce qui veut dire contre, et nomos, la loi, qui est contre la loi, on pourrait dire, et ça désigne une doctrine hostile à la loi. L'antinomie désigne une contradiction dans les lois, ou par extension, une contradiction. Eux pensaient que le chrétien, en n'acceptant pas de vivre sous la loi, finalement, était contre la loi, ou la bricolait quelque part. Alors que l'Évangile nous dit que c'est par grâce que nous avons été sauvés, et pas par la loi. Et Paul va souligner le fait que les apôtres eux-mêmes n'ont pas exigé à titre de se faire circoncire. Hein. Donc ça prouve qu'ils n'étaient pas eux sous l'emprise des judaïsants. Mais Paul va résister à ces gens-là, hein, qui le forçaient à circoncire Tite. Mais lui, il dit non. Moi, je suis sous la grâce. Il va l'expliquer un peu plus tard. Je suis gracié par le Seigneur. Je ne suis plus sous la loi. Et je ne veux pas aller au-delà de ce que dit tout simplement la Bible. Mais il y a de l'influence. Hein, et certainement qu'il les avait mis la pression. Mais il existe aussi, s'il y a l'influence peut-être du légalisme, où on va aller trop loin peut-être, il y a peut-être aussi des fois l'influence du laisser-aller. Ça, on aime bien, en tant que chrétien, se laisser aller. Hein. Un chrétien light, comme j'appelle ça. On aime bien être light, plutôt qu'être un chrétien mature qui mange la nourriture solide. Mais le Seigneur n'aime pas les chrétiens light. Il veut des chrétiens qui mûrissent, qui aillent plus loin. On peut accuser peut-être ceux qui sont dans le légalisme, mais peut-être qu'il y a l'antithèse du légalisme, se laisser tout simplement aller, ne pas considérer que je dois grandir spirituellement, considérer que je ne dois pas aller à l'église, que je ne dois pas lire ma Bible, que finalement, de toute façon, je suis sauvé, les gars, moi, je vais au paradis, et puis c'est réglé. Ce n'est pas ça, la vie du chrétien. Ce n'est pas ce que je lis, moi, dans le vrai évangile. Il doit grandir, il doit mûrir. Et pour cela, il a besoin de nourriture, il a besoin de communion fraternelle, il a besoin de l'église, il a besoin des gens. Il a besoin d'avancer, tout simplement. Ça aussi, c'est un laisser-aller, quelque part. Paul va démontrer sa position théologique. Il s'affirme, tout simplement, et en refusant que Tite soit circoncis, il refuse, tout simplement, et il montre, en fait, à quoi il pense. Il montre que le salut ne vient pas par les œuvres de la loi, comme le disent les judaïsants, mais que le salut vient par la foi. Si autrefois, on était sous la loi, il va l'expliquer un peu plus tard, mais on prend un peu d'avance. La loi était là pour révéler le péché. Hein? Quand Dieu a dit « tu ne tueras point », il disait « je te révèle le péché que tu risques de faire ». Mais la loi, elle, ne pouvait pas sauver. Et Paul va le dire, justement, que vous pouvez essayer d'obéir à toute la loi. Enfin, si vous voulez obéir à la loi, il faut obéir à toute la loi, tout entier. Et aucun homme n'est capable de le faire, sinon Christ. Mais la loi était là simplement pour révéler le péché et pour nous pousser, justement, à accepter Jésus-Christ, qui était le seul à pouvoir vivre cette loi, mais qui a donné aussi sa vie pour que nous puissions être sauvés. Donc la loi a révélé le péché, tout simplement pour qu'on ait besoin d'un sauveur, qui sera évidemment Jésus-Christ. Lui, justement, qui a le vrai évangile, qui partage ce vrai évangile, met en pratique cet évangile, justement, dans des circonstances où on l'imposait de faire des choses. C'est ça, vivre l'évangile. Il met en pratique cet évangile qui a été révélé par Dieu. Et malgré la pression qu'il avait autour, parce que j'imagine que les judaïsants, ils ne devaient pas rigoler à ce moment-là. Si on venait et on vous demandait d'arrêter de croire à l'évangile, là, avec un petit revolver sur la tête, ça vous dit ? Un jour, ça arrivera peut-être. Ça arrive dans des pays aujourd'hui. En ce moment même, il y a des chrétiens ou peut-être des musulmans qui forcent ces gens-là à renier leur foi, mais ils ne la renient pas. Parce qu'ils ont compris le vrai évangile, et ils avancent. Alors c'est facile de parler, hein, de la chair, on va dire, hein, mais peut-être qu'un jour ça nous arrivera, et est-ce qu'on est prêt à donner sa vie pour l'évangile, pour le défendre? Alors peut-être sans aller jusqu'à là, est-ce qu'on est prêt à défendre cet évangile face aux faux docteurs aujourd'hui, face à tout ce qui se passe? Parce qu'il y en a aujourd'hui, des fausses doctrines. Paul va montrer dans cette théologie qu'il y a deux alliances, hein, l'ancienne alliance qui était la loi, où on devait obéir à toute la loi, mais évidemment, comme on l'a dit, c'était absolument impossible de le faire. Et puis nous sommes dans cette nouvelle alliance qui est fondée sur la grâce, et nous sommes sauvés par la foi en Jésus-Christ, qui nous permet justement d'être sauvés. Honnêtement, c'est mieux la grâce que la loi, non? Si vous préférez vivre avec des lois en tant que chrétien tous les jours, il faut, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des commandements, on est bien d'accord, mais des lois qui n'existent pas ou qu'on s'invente, vous mettez comme un esclave devant ses lois, alors qu'en fait, la foi et la grâce, c'est la liberté d'être en Christ. C'est bien dommage, hein, c'est ce qu'il essaie de dire. Les judaïsants, eux, insistent sur l'association des œuvres de la loi avec la foi. Ils n'arrivent pas à lâcher prise, tout simplement, hein, de ce qu'ils avaient vécu autrefois. Aujourd'hui, il y a beaucoup de dérives aussi, hein, parce que justement, on veut, soit on ne connaît pas suffisamment la Bible, et donc on s'invente des lois, soit on veut aller au-delà de la Bible, et puis on s'invente sa propre théologie, son propre évangile. Il y a un équilibre à avoir, comme toujours. Le Seigneur veut qu'on connaisse sa parole, parce que connaître la Bible, c'est connaître mieux Jésus-Christ. Eh oui. Si vous ne m'aviez pas connu autrefois, et qu'on s'était téléphoné, vous auriez pensé à quoi je ressemble. Hein. Il est beau, magnifique, blond, yeux bleus, enfin bref. Mais quand vous m'aurez vu, vous êtes mince, c'est pas la même personne, hein, désolé. Mais Dieu, c'est pareil. Plus je prends le temps de lire la Bible, plus je prends le temps d'étudier, mieux je connais le Dieu que je dois suivre. Et beaucoup de gens suivent un Dieu qu'ils ne connaissent même pas, et c'est pour ça que bien souvent, ils s'égarent. Mais Paul ne cède pas devant la pression ou les menaces. Pas un instant, comme il dit. Et rien ne l'empêchera de vivre fidèlement cet évangile, rien ne l'empêchera de défendre cet évangile. Mais défendre l'évangile, parfois, ça fait souffrir. Eh oui, parce que quand on est au travail, qu'on veut parler peut-être à ses collègues, qu'est-ce qu'ils font les collègues quand vous leur parlez de la bonne nouvelle ? Ah oui, c'est vrai, hein, comment faire pour me convertir ? On ne mange pas comme ça, généralement. Hein. On se moque plutôt de vous, alors oui, ça nous fait un peu de peine. Peut-être dans nos familles aussi, parfois. On voudrait partager l'évangile, mais ou le défendre, parce que certains sont dans des religions, et des fois, ça crée des clashs. Hein. Mais le vrai évangile, même parfois, sépare. Jésus a dit qu'il est venu avec l'épée, et qu'à cause de l'évangile, il va y avoir peut-être des dissensions dans les familles, avec les amis, etc., avec des êtres aimés, parce que justement, nous, on veut vivre vraiment l'évangile. Ma famille ne le veut pas, mes amis ne le veulent peut-être pas, et ils s'opposent, et forcément, ça clash à un moment. Mais qu'est-ce que je fais quand c'est ça ? Il ne faut pas dire que je n'aime plus ma famille, on est bien d'accord. Mais je ne peux pas non plus accepter, des fois, les dérives que certains connaissent. Et c'est douloureux, des fois, c'est difficile. Mais Paul, lui, ne résiste tout simplement, résiste à cela, et avance, parce qu'il ne peut pas faire autrement. Quand on a rencontré Jésus-Christ, on ne peut pas faire autrement. C'est impossible. Ou alors on ne l'a pas rencontré. Ou alors on va faire des compromis qu'on va voir tout à l'heure. Le chrétien, lui, défend le vrai évangile. N'est-ce pas ? Je suis le seul. On va recommencer. Le chrétien défend l'évangile, non ?
Oui.
On va essayer au moins. On va apprendre à le défendre. Vous savez pourquoi ? Il ne le dit pas directement là, mais il le dit indirectement. Parce que si on présente le vrai évangile, ça conduit au salut, les gens. Par contre, si on donne un évangile biaisé à moitié, ou si on ne l'annonce pas, eh ben les gens ne savent pas qu'ils ont besoin d'être sauvés. Et c'est pour ça que c'est important de connaître l'évangile, de le défendre, de le garder tel qu'il est, parce que ça mène au salut. Vous qui êtes là ce matin, c'est en lisant la Bible à un moment où on vous l'a lu, où on vous en a parlé, mais vous êtes passé par l'évangile pour accepter Jésus-Christ dans votre vie. C'est obligatoire. C'est par l'évangile que vient la foi, tout simplement. Donc c'est tellement important de le connaître, de le défendre, de le chérir, parce que c'est ça qui permet à des gens, un jour, d'être sauvés. Puis une troisième influence qu'il va connaître, c'est l'hypocrisie. Et il va parler de ce cas de Céphas, de Pierre, à Antioche, qu'il avait rencontré. Avant l'arrivée de personnes qui vont être envoyées par Jacques, comme il dit, certainement des Juifs, hein, Céphas, lui, qui connaissait la liberté, mangeait avec les païens, ça ne lui posait pas de problème. Seulement, les Juifs s'interdisaient cela. Mais lui, gracié, mangeait avec les païens. Alors, cette loi de manger avec les païens, enfin, qu'un Juif mange avec les païens, n'est pas vraiment explicite dans la Bible, hein, en tout cas. Peut-être à Pâques, éventuellement, on voit ça dans Exode, mais là, on voit encore le judaïsme qui avait inventé des lois qui allaient au-delà de ce que disait forcément la Bible. Et Pierre, lorsqu'il va monter à Jérusalem, a été déjà accusé par les circoncis d'enfreindre la loi chez Corneille, par exemple. Il va avoir une révélation, enfin une vision plutôt de Jésus pour comprendre que les païens aussi peuvent être graciés. Nous, pour nous aussi. Mais lui, en tant que juif, il est plein d'orgueil. Eux ne peuvent pas avoir le salut. Mais Dieu a dû lui expliquer que non, les païens vont aussi avoir le salut. C'est dire comment la mentalité qu'ils avaient à ce moment-là. Mais lui met en pratique cette théologie, mais il reste très influençable. Le problème, c'est qu'il change d'attitude devant les circoncis. Quand les juifs vont arriver, d'un seul coup, il va sortir parce qu'il voit les juifs arriver. Donc il est influencé. Et sa théologie est un peu biaisée. Hein. Il craint les hommes, là, pour sauver les apparences, et il est prêt à faire un compromis, tout simplement. Hein. Ces juifs arrivaient, ils savaient que les juifs ne permettaient pas qu'on mange avec les païens, et donc il voulait faire plaisir à ces juifs. Donc il est sorti du repas avec les païens. C'est du compromis, c'est de l'hypocrisie, tout simplement. Hein. Dans Proverbes 29-25, il est dit « La crainte des hommes tend un piège, mais celui qui se confie en l'Éternel est protégé. » Quand on a peur des hommes, on est en danger. On est influençable et on va faire des compromis. Pourtant, Pierre, lui, avait une révélation de Dieu. Hein, quand, justement, je disais, quand il était allé chez Corneille, Dieu a expliqué à Pierre que les païens étaient aussi sauvés, si, évidemment, ils se repentaient. Il avait donc toute la liberté devant Dieu de pouvoir manger avec les païens. Et c'est ce qu'il faisait à ce moment-là. Il prouvait sa théologie et d'un seul coup, il la change. Hein. Il sait qu'il est sauvé par grâce. Il sait que je peux manger avec les païens, mais à cause de l'influence des hommes, eh ben, il change. C'est terrible quand on y réfléchit un petit peu. On est comme ça peut-être aussi parfois. Donc la théologie de Pierre était le salut par la grâce seulement, mais son comportement exprimait les œuvres de la loi comme nécessaires au salut. Le problème, c'est que c'était une des colonnes. Et ça, on l'oublie. C'était un des référents dans l'Église qui agissait de façon hypocrite. C'est dire l'exemple que ça donnait aux autres. Eh oui. Et c'est ça le problème. Et c'est pour ça que Paul va être très sévère avec lui. Il était un modèle pour les juifs, pour les païens, pour ceux qui étaient dans l'Église. Mais lui, s'il agissait comme cela, eh ben, ça va avoir un impact. Et c'est ça que Paul va dénoncer. Paul rappelle l'influence des responsables. Hein. Pierre, lui, fait croire qu'il approuve la loi en agissant comme cela. Hein, il n'est plus sous la grâce d'une certaine manière. Alors qu'au fond, il savait très bien qu'il pouvait le faire. Mais à cause des hommes... à cause de leur réputation, eh bien, ils se remettaient sous la loi. Ils agissaient mal, en fait. Et il va influencer les autres, et même au point d'influencer Barnabas. C'est dire, le responsable qui agit mal, comment il peut influencer tous les autres? Et les autres suivent, hélas. Et pourtant, Barnabas, ce n'était pas n'importe qui. Le problème, c'est qu'agir ainsi, c'est qu'il faisait croire à ces païens-là qu'il fallait revenir à la loi. C'est ça, le problème. En agissant comme les juifs agissaient, les chrétiens devaient se dire « Mais attends, tu dis que tu es sauvé, que tu n'es plus sous la loi, que tu as été gracié, mais maintenant tu recommences à faire comme si tu étais sous la loi. » Alors ça veut dire que nous, en tant que païens, on doit se mettre sous la loi. Je ne sais pas si vous arrivez à me suivre un peu. Hein, c'est un peu compliqué dans la tête, mais... Et c'est ça, c'est l'hypocrisie qui est dénoncée là. En fait, par son exemple, il disait à ceux qui ne connaissaient peut-être pas encore vraiment Jésus, etc., qu'il fallait se placer sous la loi. Et ça, évidemment, c'est... complètement hérétique pour l'apôtre Paul, et c'est pour ça qu'il va reprendre Céphas à ce moment-là. Paul dit, si eux, c'est-à-dire Paul et Céphas, sont des juifs, ont été sauvés par grâce, et donc ne vivent plus sous la loi, pourquoi, par l'attitude de Céphas, pourquoi il va amener les païens à être de nouveau sous la loi? C'est terrible quand on y réfléchit. C'est triste. Pour nous aujourd'hui, parce qu'on peut avoir une leçon pour nous, est-ce qu'on vit dans les compromis? Oui, hypocritement, parce que souvent, c'est bien la même chose. Est-ce que je fais des compromis ou est-ce que je vis dans la vérité? Perdu-moi une petite fiche. Petite histoire par rapport à ces compromis. Hein. C'était un chasseur et un ours. Un chasseur avait un gros ours au bout de son fusil. Il était sur le point d'appuyer sur la gâchette. À cet instant, l'ours s'adressa à lui d'une voix douce et apaisante. « Serait-il pas préférable de parler plutôt que de tirer ?» Pourquoi ne pas négocier? Que voulez-vous exactement? Le chasseur abaissa son fusil et répondit « J'aimerais bien avoir un manteau de fourrure. » L'ours de reprendre « C'est très bien. Je crois que nous pouvons en discuter. Pour ma part, tout ce qui m'intéresse peut se résumer à un estomac bien rempli. Peut-être pourrions-nous trouver un compromis. Pourquoi pas ?» Ils s'assirent donc pour discuter. Un peu plus tard, l'ours repartit seul. Les négociations avaient abouti, l'ours avait l'estomac plein et le chasseur avait un manteau de fourrure. On ne voyait plus la différence, le chasseur était assimilé avec l'ours. Bon, c'est rigolo, il avait mangé. Mais c'est rigolo et en même temps c'est pas rigolo. Parce que nous agissons de cette manière-là des fois, en biaisant ou avec des compromis dans notre vie chrétienne. Aujourd'hui le grand compromis c'est l'œcuménisme. On s'aime tous, hein, on s'en fiche de la doctrine. À condition que toutes les religions s'aiment, c'est ce que Dieu veut. C'est pas ce que Dieu veut. J'ai jamais lu ça dans la Bible. Il veut qu'on garde la saine doctrine. On parlait de vivre en chrétien light. Ça aussi, c'est des compromis. Je suis obligé de marcher sur deux chemins à la fois. Souvent, c'est parce que je suis charnel. Et le grand écart, ça fait mal. Hein, si je veux vivre dans le monde et si je veux vivre avec Dieu, c'est difficile des fois. On fait des compromis. Et le problème, c'est qu'on ne se rend pas compte, mais quand on fait des compromis, ça nous attriste. Ce n'est pas apparent. Ça se voit dans le temps. Si vous faites tout le temps des compromis, vous verrez à un moment parce que vous allez chuter complètement. Ça attriste le chrétien. Et surtout, c'est que les gens vous regardent. Si moi, je veux vivre en compromis, c'est une chose. C'est ma responsabilité. Mais peut-être comme Pierre, à ce moment-là, il cache le salut aux autres. Si moi, je dis que vivre dans l'Évangile, c'est faire un peu n'importe quoi, que je dis c'est comme ça qu'il faut être sauvé alors que c'est pas comme ça, ben l'autre vous écoute. Lui voudrait être sauvé, mais s'il a que ça comme exemple, comment il fait? Ou alors si le jeune chrétien veut avancer dans sa foi et qu'il voit des chrétiens soi-disant matures qui vivent dans le monde et qui font comme le monde, comment il va avancer? C'est ça le problème de Pierre. Lui, il était une colonne, il devait savoir ces choses-là, mais donner un très mauvais exemple à ceux qui étaient autour de lui. Et ça, ça a mis en rage notre cher apôtre Paul. Notre façon de vivre l'Évangile, est-ce qu'il est celui de Dieu? Est-ce qu'il est celui que moi je m'invente? Ou est-ce qu'il est celui des compromis? Souvent c'est celui que je m'invente. Le Seigneur ne veut pas l'Évangile du compromis. Et Paul va reprendre ses faces de son hypocrisie et fait son travail. On peut souvent dire il est un peu dur, mais non, il fait son travail. Dans 1 Timothée 5, 19, 20, il est dit qu'il fallait reprendre l'ancien, le pasteur, devant tout le monde s'il faisait une bêtise. Devant tout le monde. Ce n'est pas le cas pour les chrétiens. Parce qu'il est responsable. Il devait être repris devant tout le monde pour rappeler la responsabilité et que tout le monde craigne, justement, la manière d'agir. Et Céphas, c'est une colonne, on l'a dit. Et il va être repris devant tout le monde. Et Paul avait absolument raison. Parce qu'on pourrait dire, oui, mais tu aurais pu le prendre, le mettre à côté, ne pas le gêner, etc. C'était une colonne. Il ne faut pas jouer avec ça. Et pas avec Paul, surtout. Il dit, tu ne marches pas selon la vérité de l'Évangile. Paul vient là pour défendre l'Évangile et voit un comportement comme ça. Il y a quoi avoir la rage. Peut-être que nous n'avons pas la rage parce qu'on s'en fiche. Eh oui, c'est ça le problème. Mais lui avait la rage parce que lui, c'était important de défendre absolument l'Évangile. Il remarque là que Pierre, qui était une colonne, malgré tout, manquait de constance. Il était facilement influençable par les autres. C'est triste. Paul affirme à ce moment-là ses convictions théologiques. Il dit que ce n'est pas de justification par la loi que nous sommes sauvés, mais nous sommes justifiés par la foi en Jésus-Christ. Ce n'est pas la même chose. Il ne faut pas faire des choses pour être sauvé. Il faut simplement accepter le cadeau gratuit, qui est la bonne nouvelle, l'Évangile justement, et que Jésus-Christ nous a donné. Si le chrétien doit retourner à la loi, ça veut dire donc que la grâce ne suffit pas. Eh oui, c'est ce qu'il disait. Parce que si je suis gracié, je n'ai plus rien à faire. Je n'ai rien à faire pour être sauvé, sinon on me repentir, évidemment, ça fait déjà pas mal. Mais après, je n'ai rien à faire pour garder, conserver mon salut. C'est fait une fois. Mais si je dis qu'il faut retourner à la loi, comme faisait Pierre à ce moment-là, ben ça veut dire que la grâce n'est pas suffisante. Il faut faire quelque chose de plus. C'est ça que tu veux dire, Pierre? Et si la grâce n'est pas suffisante, ça veut dire que Jésus est le ministre du péché, c'est-à-dire qu'en fait, il nous ment. S'il dit qu'il faut être sauvé par grâce, et que, soi-disant, il faudrait rajouter quelque chose, ça veut dire que Jésus ment. C'est ce qu'il est en train de dénoncer, là. Et quand on y réfléchit un peu, c'est extrêmement grave, la manière d'agir de Pierre, justement. Et c'est pour ça qu'il le reprend. Pourquoi rebâtir les choses qu'on a détruites? Pourquoi nous qui étions sous la loi, qui faisions des choses, et surtout Paul savait ce que c'était d'être sous la loi, lui qui était pharisien, qui était à fond là-dedans, quand il a découvert la grâce, ça a dû faire « Ah, ça devait être bien hein. !» Mais pourquoi retourner à ce qu'on a détruit? Pourquoi retourner à la loi alors qu'on est justifié par la grâce? Justifié par la grâce, ça veut dire être déclaré juste devant Dieu. Moi, je dis souvent, c'est comme si j'avais mon diplôme, entre guillemets, juste à côté du trône de Dieu, mais il est dit « Emmanuel est sauvé ». C'est chouette. Et personne ne peut aller le chercher. C'est ça, l'assurance du salut. Personne ne peut aller chercher mon diplôme, entre guillemets. Enfin, ce n'est pas un diplôme, hein. C'est Jésus qui a fait tout cela, évidemment. Mais retourner à la loi, c'est remettre tout en question, tout simplement. Et ça, ce n'est pas possible pour Paul. Et il va démontrer, parce qu'il dit « car transgresser la loi mène à la mort ». Ce qu'on avait vu, la loi révélait le péché, mais le péché menait à la mort, obligatoirement. Alors à l'époque, il y avait des sacrifices qui couvraient, qui ne pardonnaient pas le péché, mais qui couvraient le péché en préfiguration du sacrifice que Jésus allait faire beaucoup plus tard. Et donc on pouvait demander pardon au Seigneur quand on avait péché. Mais c'était par préfiguration, évidemment. Mais cette loi-là menait à la mort. Par contre, la grâce, elle mène à la vie. Préfère être mort ou vivant? préférez être sous le joug de loi, de légalisme, ou avoir la liberté de Christ? Parce que souvent, le chrétien se dit « Ah, j'ai un tout petit espace de liberté dans ma vie chrétienne ». C'est complètement faux. Il est grand, l'espace de liberté. Évidemment, il y a une limite à un moment. Mais on a une sacrée liberté en Jésus-Christ. Hein. À nous de ne pas nous mentir, peut-être, des fois. Il dit que Christ a été crucifié, ou Paul a été crucifié avec Christ. On retrouve ça dans Romains 6. Il est mort avec Jésus-Christ. Il a été mis à mort par rapport à la loi. Lui qui connaissait tellement la loi, il a déclaré que c'est fini avec la loi. Il a découvert la grâce. C'était bien, évidemment, meilleur. Vous savez, si on obéit vraiment au Seigneur, on accomplit toute la loi. Parce que quand on est gracié, on peut obéir au Seigneur. Non seulement il nous aide, et quelque part, on applique les 10 commandements, on applique tout ce que le Seigneur nous demande. Donc on applique cette loi, mais on ne revient pas à la loi, vivre sous la loi comme on le faisait autrefois. Désormais, il dit « Christ règne dans sa vie ». C'est beau quand il dit ça, « Christ règne dans sa vie ». Vous pouvez venir m'embêter là, tout le monde, avec vos machins, « Christ règne dans ma vie », vous ne toucherez pas. Vous ne toucherez pas à l'évangile, vous ne toucherez pas à la grâce dont j'ai été bénéficiaire. Il dit « il vit dans la chair », c'est-à-dire comme un être humain, hein. C'est pas qu'il est éternel, c'est plutôt un être humain, mais aussi par la foi ou la confiance dans le Fils de Dieu qu'il a envoyé, et il dit quelque chose qui est mort pour lui. C'est bien de s'en souvenir que Jésus-Christ est mort pour moi, qu'il a tout donné pour moi. Vous le méritiez? Quelqu'un méritait le salut, hein? Personne. Et encore aujourd'hui, en tant que chrétien, des fois, si on devait conserver le salut en fonction de notre manière de vivre, je ne sais pas si on le garderait longtemps. C'est totalement immérité, et totalement une grâce. Parce que le Seigneur nous connaît, on est loin d'être parfait, et pourrait se dire des fois, « Ah, Emmanuel, il y en a marre. Cette fois, je t'enlève le salut parce que tu me saoules. » On ne parle pas comme ça, le Seigneur, je sais. Mais bon, non, il m'a sauvé. Il savait comment j'allais encore agir après le salut, mais il m'aime, il m'a aimé, et il m'a sauvé. Et ça, Paul l'avait compris dans sa vie, et c'est pour ça qu'il est aussi ferme. C'était une vérité au fond de lui. Et il était ferme pour cela et pouvait défendre l'évangile à quiconque voulait bien l'entendre ou ceux qui voulaient le reprendre, tout simplement. Aussi, il dit la justice, justification, parce que les deux, c'est la même chose, s'obtient par la foi. C'est en croyant que Jésus me sauve que j'ai la vie éternelle. Il faut le croire. Et c'est quand même curieux que quand vous allez présenter cela à quelqu'un, ben, il n'y arrive pas. Vous êtes converti facilement, hein? Je pense pas. Hein. Si quelqu'un est venu vous dire « Sois sauvé de tes péchés », t'as dit « Oui ». Non, non, non. Ça a lutté d'abord dans le cœur. Hein. Moi, pécheur, mais ça va pas. Moi, je suis quelqu'un de bien. Vous êtes fou. Là. J'ai jamais volé, jamais tué. Enfin, jamais volé, peut-être presque pas. Mais je suis bien. Non. On est justifié par la foi. Il faut le croire. Il faut accepter, évidemment, quand on croit qu'on est pécheur, croire qu'on est perdu et croire qu'il n'y a que Jésus-Christ qui peut nous sauver. Sinon, si on n'est pas... Comme dit Paul, si on n'obtient pas la justification par la foi, ça veut dire que Jésus-Christ est mort pour rien. Et ça, c'est encore plus dramatique. Si Jésus a donné sa vie et qu'il faut retourner à la loi, il l'a fait pour rien du tout. La grâce n'est pas valable dans ce cas-là. Et donc, on ne serait pas sauvé par la foi. Évidemment, c'est le contraire que dit l'apôtre Paul. Pour nous, aujourd'hui, on peut vivre en chrétien hypocrite. On emprunte des fois deux chemins à la fois, pas forcément constamment. On se fait des petits compromis dans notre cœur, on arrange l'évangile à notre manière, parce que des fois c'est difficile, parce que des fois j'ai pas envie, parce que je suis paresseux, parce que... Il y a beaucoup de solutions. On a tous des compromis. Moi le premier. On a tous des compromis. Je les sais, je les connais, hélas. Alors on lutte contre cela. Il faut aussi les accepter, mais se laisser transformer par le Seigneur pour que ces compromis disparaissent au fur et à mesure. Mais peut-être si on vit avec des compromis, c'est parce qu'on manque de consécration, tout simplement. Tout à l'heure, quand Rémi a parlé de chapitre, ça parle de consécration aussi. Me donner entièrement au Seigneur, vivre véritablement l'Évangile, c'est se consacrer. C'est pas vivre en chrétien light, c'est pas vivre de temps en temps l'Évangile, c'est se donner entièrement, entièrement. Ça vient peut-être aussi d'un manque de conviction parfois, parce que je n'ai pas beaucoup de connaissances de la Bible. Alors, je fais avec ce que j'ai, ou avec ce qu'on me dit, ou ce que je vois sur Internet. Alors là, je vais faire n'importe quoi, bien souvent. C'est à moi, c'est moi qui suis responsable de connaître cet évangile. Comme Paul a défendu l'évangile. Je ne pourrais jamais le connaître par cœur, évidemment, mais en connaître une bonne partie. Et on peut en connaître encore plus que plus. C'est formidable, vous n'allez pas mourir demain. Enfin, j'espère pour vous, en tout cas. Donc ça veut dire, d'ici demain, vous pourrez apprendre encore un peu plus de l'Évangile. C'est chouette, non? cet après-midi, vous regardez peut-être les émissions Dallas ou je sais pas quoi. Je sais pas si ça existe encore. Hein. On peut peut-être prendre la Bible. Mais je crois qu'ils vont le refaire d'ailleurs, il me semble. On peut prendre la Bible et aller un petit peu plus dans cette Bible, à avoir un peu plus de conviction, découvrir que le Seigneur veut ma consécration et se réveiller peut-être le lendemain en disant maintenant, j'ai envie d'avancer, je veux marcher avec le Seigneur. Vous savez, on se dit des fois, bon, on fait des compromis, c'est pas grave, le Seigneur est plein d'amour, il me pardonnera. D'abord, ça, c'est pas vrai, c'est faux, parce qu'on passera devant le tribunal de Christ et on sera évalué pour ce qu'on fait. Mais moi, ce que je vois là, surtout le danger, et c'est ce que Paul disait, c'est pour ceux qui nous regardent, encore une fois. Notre façon de vivre l'évangile influence ma famille, mes amis, mes collègues de travail, toutes les personnes que je croise. Et si je ne vis pas l'évangile, ben je ne donne pas envie aux autres de le vivre. Et oui, c'est ça le problème. Et peut-être que je serais même repris pour cela. Parce que même en vivant mal l'évangile, moi je ne me suis pas converti quand j'étais jeune parce que j'ai vu des gens vivre l'évangile de façon mal, pire que le monde. Être raciste en tant que chrétien, je ne comprends pas. Faire des choses abominables. Moi, j'étais là, 15 ans, je disais, mais c'est quoi ça? C'est l'évangile, ça? J'en veux pas. Et ça, ça m'a fait éloigner de Jésus-Christ. Eh oui. On ne s'en rend pas compte. Hein. Oui, je fais mon compromis. OK. Mais le problème, c'est que ça a un impact sur tout le monde. Et c'est là où il faut réfléchir. Il ne faut pas se mettre la pression non plus, mais il faut réfléchir. Si je vis vraiment l'évangile comme le Seigneur me demande, ça aura normalement une bonne influence. Et Paul, justement, a rétabli cette bonne influence. Comme Pierre, il est possible de conduire les perdus dans une mauvaise direction. Parce que ces païens qui étaient là, qui l'ont vu sortir vite fait à cause des circoncis, ben, ils ont dû se poser plein de questions. On fait comment pour être sauvés? Par la loi, alors. Ah, ok, on va aller vers la loi. Et finalement, ils ne vont pas être sauvés. Si moi, je fais des compromis constamment, je ne veux pas vivre cette vie de consécration, de conviction, ben, à un moment, je vais peut-être influencer aussi ces gens-là à se perdre, tout simplement. Alors, on ne va pas s'accuser ce matin, ce n'est pas l'idée. Mais ce n'est pas faux, parce que Paul l'a vécu et l'a repris immédiatement. À nous de réfléchir. C'est bien, je ne veux pas avancer moi. Mais le problème, c'est que les autres ne vont non plus pas avancer, peut-être. Et ça, c'est dommage. Par contre, si j'avance moi, peut-être les autres n'avanceront pas. Ça, c'est leur problème. Mais au moins, j'ai ma responsabilité. Et je suis clean, entre guillemets, devant le Seigneur. Rejetons l'influence de l'hypocrisie, parce qu'elle est grave, pour vivre le véritable évangile et offrir, quelque part derrière, la possibilité à des gens d'obtenir le salut. Pour terminer, Paul rappelle que le chrétien peut être influencé de plusieurs manières. Là, il n'y en a que trois, il y en aura des tonnes d'influence. Mais on peut être influencé, ça nous arrive, et ça nous arrivera peut-être dans notre vie. Et on doit être justement vigilant et vivre en conformité avec ce qu'on croit. Alors évidemment, si on ne croit pas à grand-chose, forcément, on est en conformité. Il faut apprendre à croire plus que ça, hein, à connaître plus l'évangile et vivre en conformité. Et comme ça, ben comme Paul, je serai ferme en face des faux docteurs, je serai ferme en face des légalistes, en face de tous ceux qui ne veulent pas vivre le vrai évangile. Attention à notre façon aussi de vivre l'évangile, on l'a dit, parce que ça a des conséquences sur les autres. Ça en aura forcément déjà sur moi, mais ça en aura sur les autres. Paul nous appelle à vivre le vrai évangile. Pour cela, évidemment, il faut le connaître. Parce que souvent on me demande, oui, mais il faut de la pratique. Hein. Parle-nous de la pratique de la vie chrétienne. Mais Paul, chaque fois qu'il parlait de pratique, il parlait d'abord de théologie avant. Chaque fois, deux, trois chapitres. Et après seulement, vous allez voir comment vous mettez en marche. Et évidemment, si je veux avoir une bonne pratique, il faut quand même que je sache quoi faire. C'est quoi un chrétien? Comment je dois vivre tous les jours en tant que chrétien? Si je ne sais pas ce que dit la Bible, donc théologie, même pas ce mot, ben je ne saurais pas comment agir dans mon quotidien. Donc il faut que j'apprenne, et que je connaisse de mieux en mieux ce que le Seigneur veut pour moi. Et surtout, vivons l'Évangile. Si peut-être on fait des compromis et qu'on a du mal, stimulez-vous peut-être par rapport aux âmes perdues. J'ai envie de vivre l'Évangile, de le défendre, d'être capable de le présenter, parce qu'il y a des gens qui sont actuellement destinés à l'enfer. Heureusement que des gens sont venus me parler de l'Évangile à un moment, sinon je ne sais pas où je serais aujourd'hui. Et peut-être que moi, justement, le Seigneur, on a parlé de dons tout à l'heure, mais on est tous appelés normalement à évangéliser là où on est. Si moi je ne vis pas avec des compromis sous influence ou dans l'hypocrisie, eh bien je peux être disponible face à ces âmes perdues et leur présenter le vrai, l'unique évangile, celui qui sauve, celui qui justifie par grâce. Vous voulez vivre le vrai évangile? Oh, on dit oui aujourd'hui. C'est demain qu'il faudra le vivre, c'est après-demain. Que le Seigneur nous encourage à vivre ce plein évangile, on pourrait dire, être capable de le défendre aussi, pour que des âmes, à un moment, nous posent des questions qui étaient perdues, mais qui puissent être aussi sauvées. Et là, vous verrez que quand vous voyez quelqu'un se tourner vers le Seigneur, vous direz, ça vaut le coup de lire sa Bible quand même, ça vaut le coup de l'étudier, parce qu'une âme qui est sauvée, c'est quelque chose d'extraordinaire. Bon, il y en a qui veulent des miracles, moi quand quelqu'un se convertit, c'est le plus beau des miracles que je vois dans ce monde. Le Seigneur en fasse d'autres des miracles, prions. Seigneur, merci pour ta parole, merci pour l'exemple de Paul et ses influences qu'il a connues au travers de son ministère. On peut être influencé par les grands et c'est vrai que des fois, même nous-mêmes, on se laisse discrètement influencer. Apprends-nous plutôt à mieux connaître l'Évangile, pour pouvoir le confronter à ces grands, entre guillemets, ou à quiconque veut remettre en question ta parole. Apprends-nous non plus pas à vivre dans le légalisme, sous influence peut-être de ces gens qui veulent ajouter à l'Évangile. Apprends-nous aussi à ne pas vivre dans le sens inverse, à nous laisser aller, à se satisfaire d'être un chrétien light. Apprends-nous simplement à marcher dans cette consécration, dans cette transformation que tu veux faire avec nous chaque jour, dans cette sanctification progressive. Seigneur, apprends-nous à enlever ces compromis, cette forme d'hypocrisie que nous avons avec nous-mêmes ou vis-à-vis des autres qui déjà nous empêchent d'avancer, qui nous attristent bien souvent, mais aussi qui peut nuire à ceux qui nous regardent, peut-être même les empêcher à te connaître un jour. Transforme-nous, Seigneur, reprends notre cœur et que nous puissions vivre pleinement cet évangile, le savourer chaque jour, nous rendre compte que tu es mort pour cela, tu as donné sa vie pour que nous puissions être sauvés, pour que nous puissions aussi le partager. Transforme-nous, Seigneur, et que nous soyons à ton image et pour ta gloire, Seigneur. En Jésus-Christ. Amen.